pas du vent. Le magazine de l'environnement.
Qu'il s'agisse du climat, de la biodiversité ou de notre santé, les entreprises font la loi, il est temps qu'elles nous rendent des comptes. C'est le discours que la physicienne et militante écologiste Vandana Shiva tient depuis les années 80, inlassablement, dans son pays continent, l'Inde, mais aussi dans le monde entier, car pays riche ou en développement, nous sommes tous concernés par le monopole qu'exercent les multinationales sur l'agriculture et donc sur notre alimentation. Je pense qu'après cette émission, vous en serez convaincus et vous aurez peut-être envie de répondre à l'appel de Vandana Shiva pour une désobéissance créatrice. C'est le titre de son dernier livre sous forme d'entretien avec Lionel Astruc, publié aux éditions Actes Sud. Bonjour Vandana Shiva.
Hello.
Est-ce que vous allez bien sous le froid parisien?
With lots and lots of layers.
Alors oui, je porte plusieurs couches de vêtements de toute façon. Moi, je viens de la région himalayenne de l'Inde, alors je peux affronter ce froid.
J'ai oublié de vous présenter, Maya, c'est vous qui allez assurer la traduction. Merci beaucoup pour cela. Alors Vandana Shiva, expliquez-nous en quoi le fait que quelques multinationales comme Monsanto, Cargill, Syngenta ou DuPont contrôlent l'essentiel des semences et des produits phytosanitaires vendus sur la planète est inquiétant finalement pour notre quotidien.
Well, the first thing is, when you hear Syngenta, you don't realize that.
Alors, vraiment, parfois, on ne se rend pas compte que quand on dit Syngenta, il s'agit en fait de Ciba, de Sandoz. À l'époque, ils étaient Ciba et Sandoz. Et ces sociétés se sont fait leur argent en vendant les produits chimiques pour la guerre, destinés à la guerre. Et puis après, quand la guerre a cessé, ils se sont tournés et ces mêmes produits chimiques sont devenus des herbicides, etc. Et à partir des années 80, ils ont décidé de se mettre aux semences, de s'approprier les semences, de percevoir des royalties à partir de ces semences.
And basically they said, we have to do genetic engineering.
Après les produits chimiques, comme j'ai dit, qu'ils vendaient pour l'agriculture, maintenant ces sociétés veulent s'approprier les semences à travers l'ingénierie génétique. Qu'est-ce que c'est l'ingénierie génétique? C'est de prendre des gènes qui n'appartiennent pas à la catégorie de plantes et de les injecter dans les plantes. Et dire après que bon, nous avons inventé ces graines et donc nous sommes les propriétaires de ces graines. Et devenant propriétaires des graines, ils élaborent des lois pour le brevetage, des lois qui rendent illégal pour les paysans et les fermiers de vendre des graines et aussi de passer à l'échange de graines entre paysans. Alors, en ce qui s'agit de ces multinationales qui les font, par exemple, quand je dis qu'ils sont créés des lois, Monsanto, on peut dire que l'accord OMC, c'est vraiment l'accord Monsanto, parce que c'est Monsanto qui a tout conçu et tout fait. Et puis, quand on parle de l'accord sur le commerce et l'agriculture, on peut dire que c'est l'accord Cargill, parce que c'est l'ex-président de la société Cargill qui a formulé ça. Ce que ces multinationales cherchent à faire, donc, c'est de contrôler complètement la semence. Et à travers cela, ils veulent garder le monopole des graines, ils veulent garder le monopole du système alimentaire. Et donc, tout ça, c'est entre leurs mains.
Et ça menace donc notre sécurité alimentaire. Est-ce que ces menaces sont différentes si on est européen ou si on est africain?
The first thing is that this control of the seed through genetic engineering.
C'est sûr que c'est une menace pour la sécurité alimentaire, mais c'est aussi une menace pour le système démocratique. Parce qu'à ce moment-là, les États sont contrôlés par ces multinationales qui vendent les graines et s'approprient le système alimentaire. C'est aussi une menace pour la santé, comme le professeur Cerolini de la France a fait ressentir. Il y a la possibilité de développer des tumeurs, entre autres choses.
And the threat is not different for Africa or Europe. Why is the threat the same?
La menace ne sera pas différente, qu'il s'agisse de l'Afrique ou de l'Europe. Alors, pourquoi est-ce que la menace est la même? Parce que tout comme en Europe, on est en train de porter atteinte aux lois qui concernent la sécurité biologique. En Afrique également, c'est la même chose. En Afrique, il y a une attaque en vue de créer un monopole en instaurant des lois concernant les semences, ce qu'on appelle une harmonisation des lois de semencières. Et cela équivaut à un contrôle des sociétés sur les semences. Et à ce moment, les semences locales, les diverses sont tout à fait menacés. Alors, autre chose qui est très importante, c'est que l'introduction des organismes génétiquement modifiés, qu'on appelle OGM, constitue un monopole à travers les semences qui passe par le brevetage, par la perception de royalties. Et quel effet cela a? Cela rend les fermiers plus pauvres. Cela, bien sûr, enrichit les sociétés multinationales, mais les paysans, les fermiers se retrouvent appauvris.
Oui, parce qu'ils rentreront dans la spirale de la dette. Alors pourtant, la Fondation Gates a remis le World Food Prize, le prix mondial de l'alimentation, à Monsanto en 2013. Les organismes génétiquement modifiés seraient la solution pour lutter contre la faim dans le monde. C'est un argument qu'on entend souvent en Afrique, notamment où les pays sont vraiment à l'heure des choix dans le domaine agricole.
Sadly, the Gates Foundation is not playing a very good role. In Africa.
Malheureusement, la Fondation Gates ne joue pas un rôle très bénéfique en Afrique. Cette fondation a commencé l'Alliance pour la Révolution verte, et cela à un moment où on sait que l'agriculture chimique contribue au changement climatique, détruit les nappes phréatiques et contribue à l'appauvrissement des paysans.
Genetic engineering has.
Alors, ça fait plus de deux décennies que l'ingénierie génétique existe, et pourtant, elle n'a que deux applications concrètes, c'est-à-dire le BT, le soya BT, le maïs BT, en Inde aussi le coton BT. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on a injecté dans la plante cette toxine BT. Ce qui fait que la plante est en train de constamment produire ce pesticide.
The second application is herbicide tolerance.
Et maintenant, on a aussi ajouté à cela la tolérance à l'herbicide. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que toutes les autres plantes biodiverses qui existent dans le milieu disparaissent, seulement la plante unique, que ce soit le maïs, le soja ou le coton, existe. C'est ce qui revient en fait à réduire la sécurité alimentaire.
And this is not feeding the world because only
10% ces plantes, elles ne sont pas en train d'alimenter le monde, de nourrir le monde, parce que seulement 10% va vers l'alimentation, le 90% sont acheminés vers la production de carburant biologique et de nourriture pour les animaux. Et donc, cela ne s'adresse pas du tout à la question de la faim. En plus, le BT n'est pas en train de contrôler les maladies et les parasites et insectes qui nuisent à la plante. Et le Roundup, au lieu d'éliminer les mauvaises herbes, sont en train de contribuer à une résistance chez les mauvaises herbes. Et donc, la situation n'est pas améliorée avec que ce soit le BT ou le Roundup.
The Gates Foundation is also.
En plus, ce qui est plus dangereux, c'est que la Fondation Gates a consacré 50 millions de dollars pour l'ingénierie génétique de bananes destinées à l'Afrique. Ces bananes sont censées être remplies de vitamine A. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a d'autres plantes qui peuvent offrir cette vitamine A. Et qui pisait, c'est que cette banane, dite génétiquement modifiée pour produire plus de vitamine A, elle a été piratée sur une banane de la Micronésie.
In addition, they are rushing. So-called human trials.
En plus, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils sont en train de précipiter les essais. Ils ont payé les étudiants $900 pour que ces étudiants mangent trois bananes par jour en vue de prouver que, bon, ces bananes n'ont pas des effets néfastes. Mais ça, ce n'est pas une preuve.
La bonne nouvelle, c'est qu'il existe malgré tout des solutions pour inverser cette situation à l'échelle mondiale. On en parle juste après une petite pause musicale.
C'est pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI.
Say you want to help our community, help farmers grow more food, but all you sell to us is lies. You're only looking out for you. You say it's all about the children. Yeah, you feed them pesticides. We know that it's all about your profits. Because of you, too many die. Monsanto, go away, go away, go away. You are not welcome on our land. Monsanto, go away, go away. Just passing on our land. Yeah! Get out of here! Come back home. Yeah. Don't you come back. Oh no. Beat it. You say you're all about democracy, then you interfere with our political process. Well, you may have fooled some politicians. Yeah, you may have given them some money. But this is not Washington, D.C. You cannot bully this community. We are much stronger than you think we are. We are everywhere and we know who you are. Monsanto, go away, go away, go away. You are not welcome on our land. Monsanto, go away, go away, go away. You are trespassing on our land.
Monsanto Go Away du groupe Human, une chanson qui ne vous déplaît pas, j'imagine, Vandana Shiva.
Well, I like the song. I like anything creative that tells the truth and reaches more people.
Oui, bien sûr, j'aime beaucoup cette chanson. J'aime tout ce qui est créatif et qui touche le cœur des gens et qui parle de la vérité.
Nous avons expliqué dans la première partie de l'émission les conséquences de la mainmise des multinationales sur les semences agricoles à l'échelle mondiale, mais il y a des solutions pour y remédier et vous le prouvez tous les jours dans votre ferme Navdanya, située dans le nord de l'Inde, à une vingtaine de kilomètres de Dehradun, perdue dans la campagne au pied de l'Himalaya. L'objectif est de sauvegarder les semences en voie de disparition et le jour où Alexia Gaillard est venue chez vous, une trentaine de paysannes de Tarkashi, plus au nord, étaient en formation.
Sur nos terres, nous faisons pousser 12 variétés de céréales, comme par exemple du blé et du millet, mais aussi des légumineuses. Et nous entreposons nos propres graines dans un hangar juste à côté de nos maisons. Il y a seulement quelques produits que nous devons nous procurer. Le sucre, le thé, le pétrole et le sel. Le reste, les légumes et les épices, nous les cultivons nous-mêmes.
और चीज हमारी सारी अपने आप
Nous sommes très indépendantes car nous avons nos propres terres que nous cultivons comme nous le voulons. Les semences nous appartiennent et nous les utilisons saison après saison. Ainsi, nous faisons pousser tout ce dont nous avons besoin. Nous nous occupons de la cuisine, nous sommes responsables des semences, c'est nous qui prenons les décisions. Quant aux hommes, la seule chose qui les préoccupe, c'est de bien manger le soir.
Vandana Shiva, c'est ça la désobéissance créatrice?
What we engage in on everyday level in Navdanya.
En fait, ce que nous faisons à la ferme tous les jours, c'est de participer à une obéissance créative, une obéissance aux lois de la terre, aux lois de la biodiversité, aux lois des droits de l'être humain. Notre désobéissance créative, c'est contre les multinationales. Notre désobéissance créative, c'est contre leur reine. Notre désobéissance créative, c'est contre le fait que Monsanto dise que nous avons créé des graines.
Il y a plus de 120 fermes aujourd'hui en Inde que vous avez créées, ça a essaimé petit à petit. Ça veut dire que c'est possible donc de reprendre le pouvoir sur les semences ?
I absolutely believe that just like when one
oui, je crois fermement que la semence est un moyen de garantir notre souveraineté. Il y a un très joli poème palestinien dans lequel le poète dit « Vous pouvez détruire mon village, vous pouvez nous bombarder, vous pouvez tuer tant de personnes, mais dans ma main, je tiens une graine, je tiens une semence. Et grâce à cette graine, grâce à cette semence, nous allons retrouver notre culture et nous allons retrouver notre liberté. Et en fait, la plus petite graine sauvée et protégée nous mène vers la liberté, nous mène de nouveau vers la souveraineté. Cela doit être un mouvement mondial, au niveau mondial. Nous devons nous mettre à la protection des semences. Parce que les graines des multinationales, c'est en fait les graines de l'esclavage. Alors que les graines locales sont des graines de liberté.
En même temps, il faut de l'instruction pour parvenir à s'émanciper du discours des vendeurs de semences et de produits phytosanitaires. Il faut aussi oser faire autrement que les voisins.
Fortunately, Africa still has its own seeds.
Heureusement, l'Afrique continue à avoir ses semences locales. Elle n'a pas été submergée par les OGM. Alors, chaque personne en Afrique et dans chaque village, il faudrait préserver les semences locales et il faudrait qu'en Afrique aussi, il y a comme le mouvement navdanien où tout le monde se met à la protection et à la conservation des semences locales.
It's very important that the movements that are already there.
Ce qui est très important, c'est que les mouvements qui sont déjà sur place reçoivent le soutien au niveau mondial. J'ai effectué des visites au Ghana, en Tanzanie, en Zimbabwe cet été. Et je me suis rendu compte que les personnes ne veulent pas d'OGM. Ils veulent protéger leurs propres graines. Et il nous faut soutenir cette lutte pour la protection des graines parce que c'est en fait la protection de la souveraineté africaine.
Alors vous dites que d'ici 10 à 15 ans, nous n'aurons plus le choix. Que c'est une question de sécurité alimentaire. De toute façon, il faudra s'appuyer sur nos propres semences.
As a scientist and as a citizen of this earth, I do believe.
En tant que scientifique et en tant que citoyenne de la planète, oui, je dirais bien que nous avons quand même à peu près 10 ans pour changer les choses, pour transformer les choses. Et cette agriculture qui ne nous offre que 30% de l'alimentation en détruisant 75% de la planète et en contribuant à 40% aux émissions de gaz à effet de serre, ce n'est pas une agriculture qu'on devrait poursuivre. Il ne faudrait pas qu'en Afrique aussi, il y ait ce phénomène qu'on appelle l'appropriation des terres, l'accaparement des terres. Il ne faudrait pas qu'en Afrique, il y ait l'accaparement des terres. Et on se rend compte que si en Afrique aussi ce système d'agriculture industrielle s'instaurait, alors très bientôt, il y aurait une telle augmentation des effets néfastes qu'en fait, la planète serait tout à fait menacée et même détruite. Il y a des études, même au niveau des Nations Unies, même au niveau des chercheurs africains, qui ont prouvé que l'agriculture agroécologique produisait deux fois plus que l'autre agriculture.
Mais en même temps, c'est vrai que aujourd'hui, l'agriculture biologique, donc sans intrants extérieurs, ou l'agroécologie qui consiste à concevoir son exploitation comme un écosystème, ça pourrait nourrir le monde, c'est ce que vous nous dites, mais il y a une question d'échelle. Aujourd'hui, c'est une toute petite proportion de la production alimentaire mondiale.
Yeah. So there are three features that need to be promoted.
Oui, il y a trois points à considérer lorsque nous parlons de la promotion de l'agriculture écologique et pour la protection de la planète et aussi pour la protection de la sécurité alimentaire. Il nous faut absolument passer à l'agriculture écologique et aussi à l'agriculture à petite échelle parce qu'il y a des preuves, il y a des recherches qui ont été faites même au niveau des Nations Unies qui montrent qu'en fait 70% de l'alimentation proviennent de ces fermes à petite échelle. Deuxièmement, il nous faut à tout prix créer, maintenir la diversité biologique, parce que c'est en maintenant la diversité biologique que nous pourrons assurer la sécurité alimentaire. Ce n'est pas en ayant quatre plantes que va nous proposer les sociétés que nous allons pouvoir assurer la sécurité alimentaire. C'est à travers nos milliers de plantes qui nous donnent justement, et là je viens à l'autre point, cette diversité biologique des plantes assure la nutrition dont nous avons besoin.
Alors quand vous appelez à la désobéissance civile, vous pensez que le citoyen a vraiment la capacité de faire bouger les choses ?
Well, we've done civil disobedience when
oui, certainement, parce que nous avons pratiqué cette désobéissance civile. Cette désobéissance civile en 2004, lorsqu'on a essayé de nous imposer une loi sur les semences, nous avons réussi à faire enrayer cette loi. Nous avons aussi fait la désobéissance civile lorsqu'on a essayé de nous imposer l'huile comestible de soya génétiquement modifiée. Et en Inde, nous avons fait donc ce qu'on appelle un satyagraha de la moutarde, une désobéissance civile pour protéger la production locale de l'huile de la moutarde et pour permettre à ce qu'on puisse avoir des extractions d'huile à pression froide.
Merci beaucoup Vandana Shiva d'être passée dans Ces pas du vent. Thank you.
Thank you.
Merci Vandana Shiva. Je rappelle le titre de votre livre « Pour une désobéissance créatrice ». C'est une série d'entretiens avec Lionel Astruc publiée chez Actes Sud. Demain, nous parlerons de la grande histoire du pétrole. C'est le titre du livre de Mathieu Ozano publié aux éditions de La Découverte. Prenez soin de vous et des vôtres et à demain, même planète, même heure.
Des questions, des réactions ? Rendez-vous sur la page Facebook de l'émission.
My grandmother, when I was a child, she gave me seeds to sow. And oh, how I love to watch them grow from the righteous birth. That's when I learned you reap what you sow. We're planting seeds of freedom.
You should know, save our seeds, let them grow. Seeds of freedom in our hearts. Seeds of freedom for our souls. Seeds of freedom in our minds. A seed is life. You should know.